dominante du siècle ou bien marchera-t-il contre cette tendance et cherchera-t-il à reconstituer l'autorité démolie? L'homme éduqué, le civilisé, comme disait Fourier avec mépris, frémit à l'idée que la société pourrait un jour se trouver sans juge, sans gendarme, sans geôlier. Mais franchement, en avez-vous autant besoin qu'on vous l'a dit dans les bouquins, bouquins écrits, remarquez-le bien, par des savants qui généralement connaissent bien ce qui a été écrit par d'autres avant eux, mais pour la plupart ignorent absolument le peuple et sa vie quotidienne. Si nous pouvons nous promener sans crainte, non seulement dans les rues de Paris qui fourmillent de policiers, mais surtout dans les chemins ruraux où l'on ne rencontre que de rares passants, est-ce à la police que nous devons cette sécurité? Ou bien plutôt à l'absence de gens qui tiennent à nous assommer ou à nous dévaliser? Je ne parle évidemment pas de celui qui se trouve porteur de millions. Celui-là, un procès récent nous l'apprend, est vite dévalisé, de préférence dans les endroits où il y a autant de policiers que de lanternes. Non, je parle de l'homme qui craint pour sa vie et non pour sa bourse, remplie d'écus mal acquis. Ces craintes sont-elles réelles? D'ailleurs, l'expérience n'a-t-elle pas démontré tout récemment que Jacques l'Éventreur faisait ses exploits sous les yeux de la police de Londres, et elle est encore une des plus actives, et qu'il ne cessa ses meurtres que lorsque la population elle-même de Whitechapel se mit à lui faire la chasse? Et dans nos rapports quotidiens avec les concitoyens, pensez-vous que ce soit réellement les juges, les geôliers et les gendarmes qui empêchent les actes antisociaux de se multiplier? Le juge, toujours féroce, puisque maniaque de la loi, le délateur, le mouchard, le policier, tout ce monde interlope qui vivote autour des bâtiments, nommé par la dérision « palais de justice », ne déverse-t-il pas dans la société la démoralisation à plein flot? Lisez les procès, jetez un regard derrière la coulisse, poussez l'analyse plus loin que la façade extérieure, et vous en sortez écœuré. La prison qui tue dans l'homme toute volonté et toute force de caractère, qui renferme dans ses murs plus de vices qu'on n'en rencontre sur aucun autre point du globe, n'a-t-elle pas toujours été l'université du crime? La cour d'un tribunal n'est-elle pas une école de férocité? Et ainsi de suite. On nous dit que, quand nous demandons l'abolition de l'État et de tous ses organes, nous rêvons d'une société composée d'hommes meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Non, mille fois non. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on ne rende pas les hommes pires qu'ils le sont par de pareilles institutions. Un jour, un légiste allemand de grand renom, Tering, voulut résumer l'œuvre scientifique de sa vie et rédiger un traité dans lequel il se proposait d'analyser les facteurs qui maintiennent dans la société la vie sociale. Le but dans le droit, Der Zweck im Rechte, tel est le titre de cet ouvrage qui jouit d'une réputation bien méritée. Il fit un plan élaboré de ce traité et discuta avec beaucoup d'érudition les deux facteurs coercitifs, le salariat et les autres formes de coercition inscrites dans la loi. À la fin de son ouvrage, il réserva deux paragraphes pour mentionner les deux facteurs non coercitifs auxquels il n'attachait, comme de raison chez un juriste, qu'une médiocre importance, le sentiment du devoir et le sentiment de sympathie. Mais qu'arrivait-il? À mesure qu'il analysait les facteurs coercitifs, il constatait leur insuffisance. Il leur consacra un volume entier d'analyses serrées et le résultat fut d'amoindrir leur importance. Quand il commença les deux derniers paragraphes, quand il se mit à réfléchir sur les facteurs non coercitifs de la société, il s'aperçut de leur importance immense, prépondérante. Il se vit forcé d'écrire un second volume, deux fois plus gros que le premier, sur ces deux facteurs, la restreinte volontaire et l'appui mutuel. Et encore, n'analysa-t-il qu'une partie infime de ces derniers, ce qui résulte des sympathies personnelles et toucha à peine à la libre entente qui résulte des institutions sociales. Eh bien, cessez de répéter les formules apprises à l'école, pensez à ces idées, et il vous arrivera la même chose qui est arrivée à Tering. Vous reconnaîtrez l'importance minime de la coercition comparée aux facteurs de l'assentiment volontaire dans la société. D'autre part, Si, suivant un conseil bien vieux donné par Bentham, vous vous mettez à réfléchir aux conséquences funestes, directes et surtout indirectes, de la coercition légale, alors, comme Tolstoï, comme nous, vous prendrez en haine cet emploi de la force et vous arriverez à vous dire que la société possède 1000 autres moyens bien plus efficaces d'empêcher les actes antisociaux. Si elle les néglige aujourd'hui, c'est parce que son éducation, faite par l'Église et par l'État, sa couardise, sa paresse d'esprit, l'empêche de voir clair dans ces questions. Quand un enfant a fait une peccadille, il est si commode de le punir. Cela coupe court à toute discussion. Il est si facile, n'est-ce pas, de faire guillotiner un homme. Surtout quand on a un déblé payé à l'année. Ça nous dispense de penser aux causes des crimes.
Anne, si je te disais ce que je vois venir, Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, ça cafard. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne, ma sœur Anne, c'est qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gamme et bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, historique, historique. Si je te disais ce que j'entends, Anne, ma sœur Anne, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne, ma sœur Anne, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre, Anne, ma sœur Anne, tranquille, elle reviendra plus la vermine, mais beaucoup d'indifférence, de patience malvenue pour ces anciens damnés au goût de déjà vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières pour cette nazie nostalgique qui ressort de sa tanière. Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir, Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard.
Radio Libertaire 89.4 sur Paris et la région parisienne et partout en monde sur www.radio-libertaire.org. Vous écoutez Un rayon de soleil.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkine. On dit souvent que les anarchistes vivent dans un monde de rêves d'avenir et ne voient pas les choses du présent. Nous ne les voyons que trop, peut-être, sous leurs vraies couleurs. Et c'est ce qui nous fait porter la hache dans cette forêt de préjugés autoritaires qui nous obsède. Loin de vivre dans un monde de visions et d'imaginer les hommes meilleurs qu'ils ne sont, nous les voyons tels qu'ils sont. Et c'est pourquoi nous affirmons que le meilleur des hommes est rendu essentiellement mauvais par l'exercice de l'autorité, et que la théorie de la pondération des pouvoirs et du contrôle des autorités est une formule hypocrite, fabriquée par les détenteurs du pouvoir pour faire croire au peuple souverain qu'il méprise que c'est lui qui gouverne. C'est parce que nous connaissons les hommes que nous disons à ceux qui s'imaginent que sans eux les hommes s'entre-dévoreraient, vous raisonnez comme ce roi qui, renvoyé à la frontière, s'écriait « Que vont devenir mes pauvres sujets sans moi ?» Ah, si les hommes étaient ces êtres supérieurs dont les utopistes de l'autorité aiment à nous parler, si nous pouvions fermer les yeux sur la réalité et vivre comme eux dans un monde d'illusions sur la supériorité de ceux qui se croient appelés au pouvoir, peut-être ferions-nous comme eux. Nous croirions aux vertus des gouvernants. Avec des maîtres vertueux, quel danger pouvait offrir l'esclavage? Vous souvenez-vous du maître d'esclaves dont on nous a tant parlé il y a 30 ans à peine? N'était-il pas censé prendre des soins paternels de ses esclaves? Lui seul pouvait empêcher ses paresseux, ses nonchalants, ses enfants imprévoyants de mourir de faim. Lui, écraser ses esclaves sous le fardeau du travail ou les mutiler sous les coups? Comment l'aurait-il fait, puisque son intérêt direct était de les bien nourrir, de les bien soigner et de les traiter comme ses enfants? Et puis, la loi ne veillait-elle pas à punir les moindres écarts d'un maître qui aurait oublié ses devoirs? Ah, que de fois on nous l'a dit, mais la réalité était telle que, revenu de son voyage au Brésil, Charles Darwin fut hanté toute sa vie par les cris d'angoisse d'esclaves mutilés, par les sanglots des femmes gémissant, leurs doigts serrés dans les poussettes. Si les messieurs placés au pouvoir étaient réellement ces êtres intelligents et dévoués à la cause publique, dont les panégyristes de l'autorité aiment à nous entretenir, quelle joie utopiste, gouvernementale et patronale n'arriverait-on pas à construire? Le patron ne serait jamais le tyran de l'ouvrier, il en serait le père. L'usine serait un lieu de délices, et jamais des populations de travailleurs ne seraient vouées au dépérissement physique. L'État n'empoisonnerait pas ses ouvriers par la fabrication des allumettes à phosphore blanc, qu'il est si facile de remplacer par le phosphore rouge. Le juge n'aurait pas la férocité de condamner la femme et les enfants de celui qui l'envoie en prison à souffrir des années de faim et de misère, et à mourir un jour d'anémie. Jamais un procureur ne demanderait la tête d'un accusé pour l'unique plaisir de faire valoir ses talents oratoires, et nulle part ne se trouverait un geôlier ni un déhiblé pour exécuter les sentences que les juges n'ont pas le courage d'exécuter eux-mêmes. Que dis-je, on n'aurait jamais assez de Plutarque pour raconter les vertus des députés, ayant l'échec en horreur. Biribi deviendrait une pépinière austère de vertus, et les armées permanentes seraient la joie des citoyens, puisque les soldats ne prendraient le fusil que pour parader devant les bonnes d'enfants et pour porter les bouquets de fleurs à la pointe de leurs baïonnettes. Oh, la belle utopie, le beau rêve de Noël que l'on fait dès qu'on admet que les gouvernants représentent une caste supérieure connaissant peu ou point les faiblesses des simples mortels. Il suffirait alors de les faire contrôler hiérarchiquement les uns par les autres, de leur permettre d'échanger tout au plus une cinquantaine de papiers entre divers administrateurs quand le vent abat un arbre sur une route nationale. Ou au besoin, on les fait apprécier par ces mêmes masses de mortels qui, doués de toutes les faiblesses dans leur rapport mutuel, deviennent la sagesse même quand il s'agit de choisir des maîtres. Toute la science du gouvernement, imaginée par les gouvernants eux-mêmes, est un but de ces utopies. Mais nous connaissons trop les hommes pour en rêver de pareil. Nous n'avons pas de poids et de mesure pour les vertus des gouvernés et celles des gouvernants. Nous savons que nous-mêmes ne sommes pas sans défaut et que les meilleurs d'entre nous seraient vite corrompus par l'exercice du pouvoir. Nous prenons les hommes pour ce qu'ils sont, et c'est pour cela que nous haïssons le gouvernement de l'homme par l'homme et que nous travaillons de toutes nos forces, pas assez peut-être, à y mettre fin. Mais ce n'est pas assez de démolir. Il faut aussi savoir bâtir, et c'est faute d'y avoir pensé que le peuple fut toujours leurré dans toutes ces révolutions. Après avoir démoli, il abandonnait le soin de reconstruire aux bourgeois qui, eux, possédaient une conception plus ou moins nette de ce qu'ils voulaient réaliser et qui reconstruisaient alors l'autorité en leur faveur. C'est pourquoi l'anarchie, lorsqu'elle travaille à démolir l'autorité sous tous ses aspects, lorsqu'elle demande l'abrogation des lois et l'abolition du mécanisme qui sert à les imposer, lorsqu'elle refuse toute organisation hiérarchique et prêche la libre entente, travaille en même temps à maintenir et à élargir le noyau précieux de coutumes de sociabilité sans lesquelles aucune société humaine ou animale ne saurait résister. Seulement, au lieu de demander le maintien de ces coutumes sociales à l'autorité de quelques-uns, elle le demande à l'action continue de tous. Ces institutions et les coutumes communistes s'imposent à la société non seulement comme une solution des difficultés économiques, mais aussi pour maintenir et développer les coutumes sociables qui mettent les hommes en contact les uns avec les autres, établissant entre eux des rapports qui fassent de l'intérêt de chacun l'intérêt de tous et en les unissant au lieu de les diviser. Quand nous nous demandons, en effet, par quels moyens un certain niveau moral peut être maintenu dans une société humaine ou animale, nous n'en découvrons que trois. La répression des actes antisociaux, l'enseignement moral et la pratique même de l'appui mutuel. Et puisque tous les trois ont été pratiqués, nous pouvons les juger à leurs œuvres. Quant à l'impuissance de la répression, elle est suffisamment démontrée par le désarroi de la société actuelle et par la nécessité même de la révolution que nous désirons ou que nous sentons tous inévitable. Dans le domaine économique, la coercition nous a conduits au bagne industriel. Dans le domaine politique, à l'État, c'est-à-dire à la destruction de tous les liens qui existaient jadis entre citoyens. Les Jacobins de 1793 brisèrent ceux mêmes qui avaient résisté à l'État monarchique, afin que la nation devienne une masse incohérente de sujets, soumis sous tous les rapports à une autorité centrale. Non seulement le régime de coercition a créé les maux du système économique, politique et social actuel, mais il a fait preuve d'impuissance absolue pour relever le niveau moral des sociétés. Il n'a même pas su le maintenir au niveau qu'elles avaient atteint. Car si une fée bienfaisante pouvait révéler aux yeux de tous les crimes qui se commettent chaque jour, à chaque instant, dans une société civilisée, sous le couvert de l'inconnu, des hautes protections et de la loi elle-même, la société en frémirait. Les plus grands crimes politiques, comme le 2 décembre ou la Semaine sanglante, ne sont jamais atteints, et comme disait le poète, on frappe les petits mécréants pour la satisfaction des grands. Plus que cela, alors même que l'autorité se charge de moraliser la société pour le châtiment des criminels, elle ne fait qu'accumuler de nouveaux crimes. Pratiquée depuis des siècles, la répression a si mal réussi que nous sommes dans une impasse dont nous ne pourrons sortir qu'en portant la torche et la hache dans les institutions de notre passé autoritaire.
Se pone triste contemplando la ciudad.
Per que te vas, Jeannette, par Sarah-Jeanne Ziegler et Justine Jérémy. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 sur Paris et la région parisienne et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. L'émission, c'est Un rayon de soleil. Un rayon de soleil, pourquoi ? Ben parce que c'est l'émission du sud de la France. Et je vous propose tout de suite d'aller faire un saut à Cassis pour écouter du jazz. Nous allons écouter un groupe qui s'appelle le Blackbird Memories Jazz Quintet, et nous allons écouter un bout de son extrait de concert à Cassis.
Thank you.
Voilà, c'était le Blackbird Memories Jazz Quintet. C'était un extrait du concert qu'ils ont donné à Cassis le 10 août 2014. Ah oui, Cassis, le bord de la mer, les falaises en vue derrière, un endroit sublime. Bon, vous écoutiez Un rayon de soleil, c'est l'émission du sud de la France de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans lieu, sans maître et sans publicité. 89.4, c'est la fréquence à Paris. C'est aussi, vous pouvez aussi nous retrouver en DAB+, c'est-à-dire en radio numérique terrestre dans Paris et la région parisienne, et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Première partie de l'émission, nous avons écouté Kropotkin, Pierre Kropotkin. Et il nous reste quelques chapitres à écouter de Pierre Kropotkin que nous écouterons dans une prochaine émission. Donc soyez attentifs et si vous les avez loupés, ben, n'hésitez pas à réécouter sur les archives de l'émission, soit par l'internet de la station www.radio-libertaire.org, soit par celui de l'émission Un rayon de soleil, http://rl.mediterranee.free.fr. Si vous voulez pas nous passer un message, vous pouvez le faire sur rl.mediterranee@free.fr. On vous souhaite un bon appétit et une bonne journée sur l'écoute de Radio Libertaire.
Hola, mio bella Nisa, regina degli flu, li tio vegli taulisa, io canterai to giù, canterai li montagna, lu tio tamide co, li tio verdi campagna, lu tio man su l'erdo.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Mais les autres t'y font douter.
Bonjour à tous, bienvenue dans un rayon de soleil. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aujourd'hui, on a décidé de se cultiver et de lire Pierre Kropotkine, l'anarchie, sa philosophie, son idéal. Donc, nous allons en profiter et ça durera un peu plus qu'une émission. Et nous couperons ces moments de lecture par des morceaux musicaux. Et puis, juste pour vous dire, on vous emmènera un peu écouter du jazz en fin d'émission dans la belle plage de Cassis, avec la falaise en arrière-fond. C'était en août 2014 et c'est du bon jazz. Restez branchés. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'écouter les archives, vous pouvez les trouver soit sur le site de la radio www.radiolibertaire.org, soit sur le site de l'émission Rayon de Soleil http://rl.mediterranee.free.fr. Bonne écoute à tous et à tous.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkine. Citoyennes et citoyens, ce n'est pas sans une certaine hésitation que je me suis décidé à prendre pour sujet de cette conférence la philosophie et l'idéal de l'anarchie. Ceux qui sont persuadés que l'anarchie n'est qu'un ramassis de visions sur l'avenir et qu'une poussée inconsciente vers la destruction de toute civilisation actuelle sont encore bien nombreux, et pour déblayer le terrain des préjugés de notre éducation, il faudrait peut-être entrer dans des développements que l'on aborde difficilement dans une conférence. Il y a 2 ou 3 années seulement, la grande presse parisienne ne soutenait-elle pas que la seule philosophie de l'anarchiste, c'est la destruction, son seul argument la violence? Cependant, on a tant parlé récemment des anarchistes qu'une partie du public a fini par lire et discuter nos doctrines. Quelquefois même, on s'est donné la peine de la réflexion, et en ce moment, il y a du moins un point de gagné. On admet volontiers que l'anarchiste possède un idéal. On le trouve même trop beau, trop élevé pour une société qui n'est pas composée que d'hommes d'élite. Mais n'est-il pas trop prétentieux de ma part de parler d'une philosophie là où, au dire de nos critiques, il n'y a que des visions pâles d'un avenir lointain? L'anarchie peut-elle prétendre à posséder une philosophie lorsqu'on refuse d'en reconnaître une au socialisme? C'est à quoi je vais essayer de répondre en y mettant toute la précision et toute la clarté possible, et en vous priant de m'excuser d'avance si je répète devant vous un exemple ou deux que j'ai déjà mentionné dans une conférence faite à Londres, et qui, ce me semble, permettent de mieux saisir ce qu'il faut entendre par « philosophie de l'anarchie ». Vous ne m'en voudrez certainement pas si je prends tout d'abord quelques exemples élémentaires empruntés aux sciences naturelles. Non pour en déduire nos idées sociales, loin de là, mais simplement pour mieux faire ressortir certains rapports qu'il est plus facile de saisir dans les phénomènes constatés par les sciences exactes qu'en cherchant ces exemples seulement dans les faits si complexes des sociétés humaines. Eh bien, ce qui nous frappe surtout dans les sciences exactes en ce moment, c'est la profonde modification qu'elles subissent depuis quelques années dans toute leur façon de concevoir les faits de l'univers et de les interpréter. Il y eut un temps, vous le savez, où l'homme s'imaginait la Terre placée au centre de l'univers. Le soleil, la lune, les planètes et les étoiles semblaient rouler autour de notre globe, et pour l'homme, ce globe, habité par lui, représentait le centre de la création. Lui-même, être supérieur sur sa planète, était l'élu du Créateur. Le soleil, la lune, les étoiles n'étaient faits que pour lui. Vers lui était portée toute l'attention d'un Dieu qui veillait sur le moindre de ses actes, arrêtait pour lui le soleil dans sa marche, voguait dans les nuages, lançant ses ondées ou ses foudres sur les champs et sur les villes pour récompenser les vertus ou châtier les crimes des habitants. Pendant des milliers d'années, l'homme a ainsi conçu l'univers. Vous savez cependant quel immense changement se produisit au XVIe siècle dans toutes les conceptions de l'homme lorsqu'il lui fut démontré que, loin d'être le centre de l'univers, la Terre n'était qu'un grain de sable dans le système solaire. Rien qu'une boule beaucoup plus petite que d'autres planètes, que le Soleil lui-même, cet astre immense en comparaison de notre petite Terre, n'était qu'une étoile parmi tant d'autres étoiles sans nombre que nous voyons briller dans le ciel, fourmiller dans la Voie lactée. Combien l'homme parut petit devant cette immensité sans bornes, combien ridicules semblèrent ses prétentions. Toute la philosophie de l'époque, toutes les conceptions sociales et religieuses se ressentirent de cette transformation dans les idées cosmogoniques. C'est de cette époque seulement que datent les sciences naturelles, dont le développement actuel nous rend si fiers. Mais un changement, encore plus profond et d'une portée beaucoup plus grande, est en train de s'opérer dans l'ensemble des sciences, et l'anarchie, vous allez le voir, n'est qu'une des manifestations multiples de cette évolution. Elle n'est qu'une des branches de la philosophie nouvelle qui s'annonce. Prenez n'importe quel ouvrage d'astronomie de la fin du siècle passé ou du commencement d'une autre. Vous n'y trouverez plus, cela va sans dire, notre petite planète au centre de l'univers. Mais vous y rencontrerez à chaque pas l'idée d'un astre central immense, le Soleil, qui, par son attraction puissante, gouverne notre monde planétaire. De cet astre central rayonne une force qui guide la marche des satellites et maintient l'harmonie du système. Issus d'une agglomération centrale, les planètes ne sont pour ainsi dire que des bourgeons. À cette agglomération, elles doivent leur naissance. À l'astre radiant qui la représente encore, elles doivent tout. Le rythme de leurs mouvements, leurs orbites savamment espacées, la vie qui les anime et orne leur surface. Et lorsque des perturbations quelconques viennent troubler leur marche et les font dévier de leurs orbites, l'astre central rétablit l'ordre dans le système, il en assure et perpétue l'existence. Cette conception s'en va aussi comme s'en est allé l'autre. Après avoir porté toute son attention sur le Soleil et les grandes planètes, l'astronome se met à l'étude des infiniment petits qui peuplent l'univers. Et il découvre que les espaces interplanétaires et interstellaires sont peuplés et sillonnés dans toutes les directions imaginables de petits essaims de matière, invisibles, infimes quand on les prend séparément, mais tout-puissants par leur nombre. Parmi ces masses, les unes, comme ce bolide qui l'autre jour semait la terreur en Espagne, sont encore assez grandes. D'autres pèsent à peine quelques grammes ou centigrammes, tandis qu'autour d'elles voguent encore des poussières, presque microscopiques, remplissant les espaces. Et c'est à ces poussières, à ces infiniment petits qui sillonnent l'étendue dans tous les sens avec des vitesses vertigineuses, qui s'entrechoquent, s'agglomèrent et se désintègrent, partout et toujours, c'est à eux, dis-je, que l'astronome demande aujourd'hui d'expliquer et l'origine de notre système, soleil, planètes et satellites, et les mouvements qui animent ces différentes parties, et l'harmonie de leur ensemble. Encore un pas, et bientôt l'attraction universelle elle-même ne sera plus qu'une résultante de tous les mouvements, désordonnés et incohérents, de ces infiniment petits, des oscillations d'atomes qui se produisent dans toutes les directions possibles. Ainsi le centre, l'origine de la force, transporté une fois de la Terre au Soleil, se trouve éparpillé maintenant, disséminé. Il est partout et nulle part. Avec l'astronome, on s'aperçoit que les systèmes solaires ne sont que l'œuvre des infiniment petits, que la force qu'on croyait gouverner le système n'est elle-même, peut-être, que la résultante des chocs de ces infiniment petits, que l'harmonie des systèmes stellaires n'est harmonie que parce qu'elle est une adaptation, une résultante de tous ces mouvements innombrables, s'additionnant, se complétant, s'équilibrant les uns les autres. Tout l'aspect de l'univers change avec cette nouvelle conception. L'idée de force régissant le monde, de loi préétablie, d'harmonie préconçue, disparaît, pour faire place à cette harmonie que Charles Fourier avait entrevue un jour, et qui n'est que la résultante des essaims innombrables de matière, marchant chacun devant soi et se tenant mutuellement en équilibre.
Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte. Contre les gravités qui nous mènent à la chute. Faire du bruit encore à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'émeraude en toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens, parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écœure, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. À midi, quand viendra la crue, contre-courant toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'art est aux rêves utopiques, pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. Au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme, au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici, il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici, il faut faire des bilans et du chiffre. Sont nos amours toujours bord du précipice. N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi. Contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Si ce n'était d'ailleurs que l'astronomie qui subit ce changement. Mais non, la même modification se produit dans la philosophie de toutes les sciences sans exception. Celles qui traitent de la nature comme celles qui traitent des rapports humains. Dans les sciences physiques, les entités, chaleur, magnétisme, électricité, disparaissent. Quand un physicien parle aujourd'hui d'un corps échauffé ou électrisé, il ne voit plus une masse inanimée à laquelle viendrait s'ajouter une force inconnue.
De danse qui nous met si mal à l'aise. Faudrait-il vraiment qu'on laisse la place à ceux qui voudraient qu'on traverse ce monde en se bandant les yeux? Ils dénigrent notre musique, notre art, nos discours, se moquent de nos rêves, nos cultures, mais la roue tourne. Au début ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour ils te combattent, un autre jour tu gagnes. Oh, 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 oh. Vu qu'au fond c'est pareil, vu qu'il n'y a plus rien à faire. Voudrait-il qu'on oublie, voudrait-il qu'on soit complice? Quand chaque jour des gens tombent à cause de leur course au bénéfice. Regarde les bannis au bord du chemin. Trop faibles, trop petits, trop purs, trop africains. Ils n'ont pas pris leur place dans notre grosse voiture. Ce soir ils dormiront à côté de la belle sa ordure. Oh, 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 oh. T'as pas compris, faut que tu sois prêt à tuer ton frère. Si tu veux réussir, c'est la règle, c'est la loi, c'est la jungle, c'est comme ça. Si tu penses autrement, t'es fou, t'es dingue, t'es hors de là. Pauvres rêveurs marginaux, voilà ce que nous sommes quand on leur parle d'une nouvelle règle, d'une nouvelle donne. Au début, ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour, ils te combattent et ce jour-là, déjà, tu gagnes. Oh, 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 oh. On met
civilization.
Cri de chasse, cri d'amour, cri de peur. Oh robot, vous attendez qu'on meure, mort de faim, mort d'amour, mort de peur. Cercle noir, cisaillant le ciel vide, sans espoir, attentif et avide, sans beauté, sans couleur et sans race, obstiné, nettoyeur et vorace. Anonyme, citoyen solitaire, charognard, utile, élémentaire. Voyageur, si tu plies, si tu tombes, méfie-toi de l'ombre de ton ombre. Oh robot, vous n'avez pas de cri, cri de chasse, cri d'amour, cri de peur. Oh robot, vous attendez qu'on meure, mort de faim, mort d'amour, mort de peur.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 12 février 2025. Allez, c'est en direct que nous partons pour 1h30 de partage de livres. 1h30 donc jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric a la grippe, donc on a une petite pensée amicale pour lui. Et heureusement, Hélène de Femmes Libres nous vient en aide et nous l'en remercions grandement. Mais il y a Agnès, Marie, Francis et aujourd'hui Roger van Gisberg pour un livre « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter publiés au Seuil ». Comme d'habitude, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, c'est toujours la même, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et il y a aussi le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Alors, commençons sans tarder. Premier livre pour alimenter dans la série, pour alimenter le débat, « Le pouvoir ». Ah, le pouvoir avec un grand P. Voilà un thème qui intéresse toujours les contestataires de l'ordre imposé, que sont les anarchistes, et les éditions Les Belles Lettres ont réédité dans la collection Le Goût des Idées le livre de Guglielmo Ferrero, Pouvoir, les génies invisibles de la cité. Bon, soyons clairs, hein, Ferrero n'est pas un anarchiste, il est issu d'un milieu plutôt bourgeois en 1871, il est mort en 1942 en Suisse, et c'est un historien, un essayiste italien, auteur notamment de Grandeur et décadence de Rome, publié en 1907. Donc vous voyez, il est plutôt dans une logique de recherche et de l'antiquité. Et puis, en 1925, il se rapproche de Giovanni Amendola et de Benedetto Croce, deux libéraux antifascistes. Oh là là, que n'a-t-il fait là ? Et le gouvernement fasciste italien le place en résidence surveillée. Comme quoi, on a beau être un bourgeois, tranquille, etc., eh bien, on dérange le pouvoir fasciste dès qu'on se rapproche de libéraux. En 1929, il devient prof à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève, où il décède donc en 1942. Et sa relation du contrôle exercé par le pouvoir, par exemple sur son courrier, démontre le danger de tout État fasciste. Et en fait, il s'interroge dans son livre « Pouvoir » sur la notion même du pouvoir, c'est-à-dire les principes qui le fondent et le perpétuent. Sa culture initiale lui sert d'appui et l'assassinat de Jules César, vous rendez-vous compte, le fait réfléchir sur ce qui anime le pouvoir. Intéressant comme approche. Il se projette sur l'analyse du fascisme, l'attitude bienveillante de la population, des parlementaires, en majorité aux ordres du roi. Question. Tout puissant qu'il était, pourquoi Mussolini contrôle le pouvoir, la presse, les échanges dans la population ? Ferrero s'intéresse à Bonaparte et à sa volonté de contrôler la presse. Et c'est en repartant dans l'histoire qu'il essaye de mieux comprendre. Et le futur empereur s'exprime ainsi au lendemain du 18 Brumaire, « Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas 3 mois au pouvoir. » En effet, il a peur. Et pour Ferrero, en effet, c'est la peur qui anime les tenants du pouvoir. Analyser le phénomène est complexe. Ferrero trouve une réponse dans les mémoires de Talleyrand. Ouais, faut vraiment chercher, hein, les mémoires de Talleyrand, c'est-à-dire les principes de légitimité. Il en relève plusieurs, le principe électif, le principe démocratique qu'il retrouve en Suisse. Il énonce aussi le principe aristo-monarchique et héréditaire. Mais la grande question demeure, pourquoi les uns ont-ils le droit de commander et les autres le devoir d'obéir. À travers un parcours passionnant dans l'histoire du 19e siècle européen, en France, en Italie, en Allemagne, Guglielmo Ferrero réfléchit sur cette peur du pouvoir envers ses sujets, ses citoyens. Je cite « Nous avons vu que le pouvoir fait peur à ses sujets,